Je vous laisse en compagnie maintenant d'Anne Verdaguer pour le journal Haïti et des Amériques. Bonjour Anne.
Bonjour Boris, bonjour à tous. À la une, la visite de la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme au Venezuela pour 3 jours, Michelle Bachelet, qui doit faire un rapport sur la crise sans précédent que traverse le pays. On verra quelles sont les attentes, notamment des ONG de défense des droits de l'homme. On ira au Brésil où la violence policière à Rio inquiète également. Rio qui détient désormais le triste record du nombre de personnes tuées par les forces de l'ordre, environ 5 par jour, surtout dans les favelas. Et puis on fera un point sur la Copa América au Brésil, le Brésil qui a été tenu en échec cette nuit par le Venezuela lors de la deuxième journée de la compétition. Bonjour Arim Lipold.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
On commence donc par la revue de presse et on prend la direction du Venezuela où la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme est arrivée hier.
Oui, une visite de 3 jours pendant laquelle elle doit rencontrer le président Nicolas Maduro, mais aussi Juan Guaido, président autoproclamé par intérim mais reconnu, rappelons-le, par une cinquantaine de pays. C'est à la une du journal national et ce déplacement, Anne, est aussi suivi au Chili que Michelle Bachelet a dirigé à 2 reprises dans une interview au journal La Tercelle. José Miguel Vivanco, responsable des Amériques au sein de l'ONG Human Rights Watch, appelle l'ancienne présidente chilienne à donner, je cite, un sens à sa visite. Bachelet a l'obligation de montrer au monde la réalité du Venezuela sans phare, explique Vivanco. Il suggère à la haut-commissaire de l'ONU qu'elle se rende dans des endroits que le président Maduro ne souhaite pas qu'elle voie, comme par exemple l'hôpital pédiatrique José Manuel de los Ríos dans la capitale Caracas.
Et en attendant de voir comment se déroule cette visite, la presse s'interroge sur la situation politique du Venezuela, plus précisément sur l'enlisement du conflit entre Nicolas Maduro et Juan Guaido.
Oui, il faut se faire l'idée que le président Nicolas Maduro reste au pouvoir, écrit par exemple le journal El Universal. Un gouvernement de transition sera de toute façon confronté à une situation économique très difficile. Il devra aussi relever le défi de donner un espace au chavisme afin de garantir le pluralisme politique dans le pays. D'ailleurs, pour les États-Unis, le départ de Nicolas Maduro n'est plus une condition sine qua non.
D'autant que le président américain, Donald Trump, semble perdre de l'intérêt pour le Venezuela.
C'est une information qui nous donne ce matin le Washington Post. Effectivement, la Maison-Blanche avait cru en Juan Guaido et sa promesse de retourner les généraux contre Maduro. Mais 5 mois plus tard, très peu de militaires ont finalement changé de camp. Du coup, fatigués et frustrés par le statu quo qui perdure au Venezuela, eh bien Donald Trump est en train de perdre patience et son intérêt pour ce pays. En fait, il estime que ses conseillers, et notamment son conseiller de la sécurité nationale, John Bolton, se sont fait avoir par l'opposition et le gouvernement vénézuélien, écrit le Washington Post.
On passe au Brésil à présent, Arim, où le ministre de la Justice, Sergio Moro, et ancien juge de l'enquête Lavage à taux, est passé sur le banc des accusés.
Alors, pour l'instant seulement de manière symbolique, mais cela suffit pour en faire la une de la presse brésilienne. Anne, Moro s'est expliqué effectivement pendant 8 heures hier devant la commission de la Constitution et de la Justice du Sénat sur les accusations d'impartialité. Vous savez, des accusations portées par le site d'information The Intercept Brésil qui a publié et qui continue d'ailleurs à publier de nombreux messages attribués à Moro. Alors ces échanges avec notamment un procureur fédéral montrent, selon The Intercept, que les responsables de l'enquête Lava Jato ont conspiré pour empêcher l'ancien président Lula de se représenter à la présidentielle de 2018 l'année dernière. Hier, devant le Sénat, Anne, pas de déclaration fracassante ni de scoop, Moro a esquivé les questions de l'opposition, écrit Folha de São Paulo, en affirmant notamment:
na tradição jurídica brasileira, não é incomum.
Dans la tradition du système judiciaire brésilien, il n'est pas inhabituel qu'un juge ait des conversations avec un avocat, un procureur ou la police, a expliqué entre autres Sergio Moro. Le journal O Globo retient surtout que le ministre s'est posé en victime d'un groupe criminel qui a piraté son téléphone et que Sergio Moro a promis de démissionner s'il existait des preuves que des irrégularités avaient été commises.
Au Mexique, Arim, la police locale d'Iguala, la localité où 43 étudiants ont disparu en 2014, peut à nouveau porter des armes.
Oui, c'est à lire dans El Heraldo de Chiapas, 5 ans après leur désarmement par la police fédérale pour des raisons d'enquête sur des étudiants disparus. Les agents de la police municipale retrouvent donc leurs armes. Ils les ont récupérées hier à la fin d'une petite cérémonie et 26 d'entre eux sont autorisés à porter des armes de gros calibre. libre, nous précise El Heraldo de Chiapas.
Les violences policières à Rémy, il en est question aussi au Brésil, où l'impunité dont bénéficient les forces de l'ordre inquiète les ONG locales de défense des droits de l'homme. 6 mois après la prise de fonction du nouveau gouverneur de l'État de Rio, Wilson Witzel, un triste record a été battu. Environ 5 personnes sont tuées par jour sous le feu des policiers. La police qui tire à balles réelles, notamment dans les favelas, dans le cadre de sa lutte contre les narcotrafiquants. En majorité, ce sont des jeunes noirs et habitants de ces quartiers pauvres de Rio qui sont les victimes de ces violences. Le reportage à Rio de Sara Cozzolino.
Sur le t-shirt de Bruna da Silva est imprimée une photo de son fils Marcos Vinicius. Le 20 juin 2018, ce garçon de 14 ans meurt sous les tirs des policiers militaires alors qu'il rentre de l'école.
La situation a gravement empiré. Si avant la police tuait déjà, aujourd'hui elle se sent légitime en tuant. Nous avons un gouverneur qui l'autorise et un président qui décore la police de médailles. Donc c'est difficile. C'est le peuple, nous-mêmes, qui devons nous battre dans la rue en criant que l'on veut vivre.
Bruna da Silva habite le complexe de favela de Maré. Son fils a été tué par des policiers militaires lors d'une opération, selon un processus de plus en plus courant. Survolant la favela, des hélicoptères tirent au sol, a priori pour coincer des narcotrafiquants, puis des voitures blindées entrent dans la favela en tirant sur ces personnes.
Imaginez, vous êtes dans votre routine quotidienne et il y a un hélicoptère juste au-dessus de votre tête, très bas, qui survole en tirant au sol. Nous avons même des photos des marques de tir au sol qui viennent des hélicoptères. Ces engins provoquent la terreur et nous avons aussi remarqué que lors des opérations avec hélicoptère, il y a encore plus de morts.
Camila Barros travaille au sein de l'ONG Regis da Maré, les réseaux de Maré. Au mois de mars, Wilson Witzel, le nouveau gouverneur de l'État de Rio, a reconnu utiliser des snipers pour viser les narcotrafiquants. Quand nous rencontrons Camila, l'atmosphère est tendue à Maré. Le complexe, qui compte 16 favelas et 140 000 habitants, vit son 4e jour d'opération policière.
Lors des dernières opérations, nous avons recueilli beaucoup de témoignages d'habitants qui ont entendu les policiers répéter souvent la même phrase. Ici, nous ne venons pas pour vous arrêter, mais pour vous tuer. Dans le dernier récit que j'ai enregistré, le policier avait même dit : vous savez qu'on n'arrête personne ici. Si vous sortez d'ici, ce sera dans un linceul.
Depuis 2017, l'ONG avait noté une amélioration en ce qui concerne les violations des droits des habitants lors de ces opérations policières. Mais la situation est désormais critique, selon Lidiane Malankini. Elle coordonne le département de sécurité publique et droit à la justice au sein de Regis da Maré.
À partir du moment où le gouverneur actuel prend ses fonctions, nous observons un recul de ce processus. Lors de ce premier semestre, nous avons enregistré environ 16 opérations, presque autant que sur toute l'année dernière. Donc c'est très grave. Cette politique encourage les exécutions. Elle ne considère pas un habitant de la favela comme un citoyen à part entière.
Au sein de la Chambre des députés de Rio, Renata Souza incarne ce qui dérange Wilson Witzel. Femme noire et originaire de la favela, la présidente de la Commission des droits de l'homme a écrit aux Nations Unies et à l'Organisation des États américains pour dénoncer la politique du gouverneur.
Quand le gouverneur de l'État de Rio de Janeiro dit que le seul protocole de sécurité publique, c'est de viser la tête et de tirer sur les trafiquants, c'est très sérieux. En fin de compte, quand il ordonne aux policiers de la police civile et militaire de tirer, il commet un crime contre l'humanité. Il n'y a pas de peine de mort au Brésil, mais quand le gouverneur dit ça, il ordonne que la peine de mort soit appliquée sur le sol de la favela.
Si dans la grande majorité des cas, un policier qui tue un habitant de favela est innocenté, cela pourrait désormais être inscrit dans la loi. Le projet de loi anti-crime du ministre de la Justice Sergio Moro prévoit que des policiers qui ont tiré sous l'effet de la surprise, la peur ou le stress ne seront pas inquiétés par la justice. Sara Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
On vous retrouve à Rime Lipold à présent pour l'actualité haïtienne et notre rendez-vous avec le quotidien Le Nouvelliste et son rédacteur en chef Franz Duval que vous avez joint il y a quelques minutes au téléphone.
Oui, parmi les sujets en une du journal Anne, la mission de l'Organisation des États américains en Haïti pour désamorcer la crise politique, mission qui a débuté hier. Alors l'EA qui joue le rôle du médiateur, est-ce que cela peut fonctionner, Franz Duval?
Bon, ce sera difficile parce que l'OEA en Haïti laisse l'impression d'avoir déjà pris position en faveur du président Jovenel Moïse. D'ailleurs, les membres de la délégation, dans leur première déclaration, ont redit qu'ils ne sont pas venus pour acter la démission, mais pour forcer la démission du président, mais bien pour essayer de mettre en place le cadre du dialogue entre les protagonistes de la crise haïtienne. Ce mot dialogue, c'est le mot préféré du président Jovenel Moïse, sauf que le président n'a pas réussi à mettre les Haïtiens autour d'une table depuis plusieurs mois. Là, on va voir comment ça va se passer avec l'OEA. Hier, mercredi, ils ont rencontré des leaders de l'opposition modérée, pas ceux qui réclament à tout prix la démission du président, mais même les modérés ont déjà mis sur la table qu'ils ne vont pas s'asseoir avec le président Jovenel Moïse. Ce n'est pas encore l'impasse, mais c'est un peu difficile pour l'OEA, d'autant plus que la mission est conduite par un ambassadeur américain et les États-Unis sont les principaux alliés du président Jovenel Moïse en Haïti.
Le Nouvelliste, en éditorial ce jeudi, France Duval revient sur la situation de la presse et de la liberté d'expression en Haïti, une situation que vous jugez très très inquiétante.
Ce mois, Haïti déplore encore l'assassinat d'un journaliste, Wospid Pétion, qui a été tué pendant qu'il revenait de son travail et il est allé chez lui. Il y a eu beaucoup d'attaques contre des journalistes, contre des locaux de médias qui ont été attaqués, des véhicules ont été incendiés, des façades ont été criblées de balles. Toutes ces attaques laissent craindre que c'est un sale temps pour la presse en Haïti ces jours-ci. Mais c'est aussi un sale temps pour ceux qui émettent leurs opinions politiques et ceux qui ne sont pas d'accord, là encore, les attaques. Hier, mercredi en Haïti, il y a un homme d'affaires qui est aussi un politicien qui avait fait des déclarations pour supporter le dialogue que promeut le président Moïse. Eh bien, c'est bien. Ont été attaqués et par des manifestants.
Alors ce jeudi, France Duval, c'est un jour férié en Haïti, la fête Dieu, et c'est aussi le jour de la foi du livre.
Tout à fait, mais d'abord en Haïti, ce jeudi, c'est la fête Dieu. C'est une fête importante en Haïti. Il y a de grosses processions qui sont organisées par les paroisses. Chaque paroisse, dans les rues de Port-au-Prince, il y aura des milliers et des milliers de fidèles catholiques. Ils vont défiler et surtout les journalistes attendent les homélies des prêtres à l'occasion. Parce que l'Église catholique, ces derniers temps, par la voix des évêques, et ont fait des annonces, ont pris position, particulièrement pour demander de changer de système en Haïti. C'est aussi, comme vous le dites, le jour de la foire du livre. La foire du livre bénéficie de ce jour de congé pour inviter tous les amants du livre et de la lecture à une grande célébration. C'est d'abord une foire, c'est des livres qui sont bradés à moitié prix. Mais en même temps, c'est la rentrée littéraire en Haïti. Cette année, autour de Daniela Ferrière de l'Académie française, qui est l'invité d'honneur, 178 auteurs haïtiens vont présenter pour la première fois leurs nouveaux ouvrages. On attend la grande foule, mais en même temps, c'est une incertitude. L'année dernière, 17 000 personnes avaient participé à la foire. Cette année, les organisateurs, dont le journal Le Nouvelliste, espère qu'il y aura des gens à se déplacer parce que la situation est très difficile en Haïti. D'abord au niveau sécuritaire, mais aussi très difficile à cause de la situation économique. Tous les prix sont ajustés sur le dollar américain en Haïti. La gourde a perdu beaucoup de valeur en un an et les livres sont devenus très chers. Dans un pays comme Haïti, le livre est déjà un objet de luxe. Quand il est cher, c'est difficile. Quand il y a de l'insécurité pour que les gens sortent, c'est difficile. C'est un grand test ce jeudi que va passer et l'Église catholique pour ses possessions. On va avoir l'affluence et aussi la foire du livre qui se tient un peu plus tard dans la journée.
Merci beaucoup, France Duval, pour toutes ces précisions et on vous retrouve la semaine prochaine.
Et on passe au sport à Rimes avec la nuit dernière deux rencontres dans le cadre de la Copa América et après la défaite face à la Colombie lors de leur premier match. La nuit dernière, les coéquipiers de Messi n'ont pu faire mieux qu'un match nul, un partout face au Paraguay.
Et avec ce résultat, l'Argentine n'occupe que la quatrième place de son groupe avec un petit point au compteur à égalité avec le Qatar, pays invité pour cette édition 2019. Alors la sélection argentine est une âme en peine qui va continuer à souffrir. Titre ce matin à La Nation, pour ce quotidien, le futur de l'Albiceleste s'annonce incertain. Certes, une victoire face au Qatar suffirait pour la qualifier pour le prochain tour, mais vu le niveau de jeu affiché, la suite s'annonce très très compliquée selon La Nation.
Et autre résultat hier à Rimes, la victoire des Cafeteros face au Qatar.
Aí Uribe rola por dentro, Falcão toca lá pro outro lado,
Oui, la sélection colombienne s'impose, vous l'entendez, sur le petit score 1-0. La Colombie sait également souffrir, titre El Espectador. Il faut dire que les Colombiens ont attendu la 85e minute pour ouvrir le score, une victoire qui leur permet d'obtenir quand même leur ticket pour les quarts de finale.
Et au programme de cette Copa América ce mercredi, l'Uruguay rencontrera le Japon.
Et enfin, parlons de l'autre compétition continentale qui se déroule en ce moment aux États-Unis, la Gold Cup. Le Mexique s'est imposé 3-1 face au Canada, alors que la sélection martiniquaise a battu Cuba 3-0. Et aujourd'hui, Haïti affrontera le Nicaragua, alors que le Costa Rica sera opposé aux Bermudes.
Merci à Rim Lipol pour cette revue de presse très complète des Amériques. L'actualité des Outre-mer, à présent avec le journal La Première Caraïbe, présenté par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Anne.
À la une, la problématique de la desserte en eau, principal dossier au menu de la visite d'Emmanuel Wargon en Guadeloupe.
Oui, la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique, François de Rugy, s'entretiendra bien sûr avec les responsables et élus guadeloupéens de bien d'autres sujets, notamment évidemment le fléau des algues sargasses, mais l'eau sera au premier plan. Cette eau qui empoisonne, parfois dans tous les sens du terme, la vie quotidienne de la population. Franck Aristide.
Si l'eau se fait rare, ce n'est pas à cause d'un manque de matières premières, mais parce que 60% de la production se perd dans les dédales du réseau en raison de fuites. En effet, les installations actuelles datent des années 50-60 avec une durée de vie prévue pour 50 ans. Les canalisations auraient dû être changées avant les années 2000. Les premières casses sont d'ailleurs apparues dès les années 90 avant de se généraliser dans les années 2010. La faute aux gestionnaires, la générale des eaux, les syndicats intercommunaux et les élus locaux qui se sont fait taper sur les doigts par le président de la République lors de sa visite chez nous en septembre dernier. En février 2018, un plan d'urgence de 71 millions d'euros a été mis en place par la région, le département, l'État et les communautés d'agglomération. Mais il faudrait 600 millions pour régler les problèmes de l'eau et de l'assainissement. Aujourd'hui, des travaux ont été engagés à Petit-Bourg, Capesterre-Bello, Gourbert, Mornalo, Gosier. Mais pour la population, entre la pénurie et la contamination régulière aux matières fécales ou au chlordécone, la coupe est pleine. Elle multiplie régulièrement les actions sur le terrain. Dernière en date, un appel à ne plus payer les factures d'une eau qui ne coule pas au robinet.
Direction la Martinique maintenant avec la goyave, un fruit savoureux et très riche, mais oui, en vitamine C, mais il a bien d'autres qualités, notamment thérapeutiques. C'est ce que viennent de démontrer des chercheurs du pôle Martinique de l'Université des Antilles. Ils ont mis en évidence des propriétés antibactériennes et ont créé une huile essentielle à partir des feuilles de l'arbre, une expérience qui pourrait servir de modèle pour d'autres espèces de la biodiversité locale. Stéphanie Morin est docteure en toxicologie à l'Université des Antilles. Elle est au micro de Ronan Bonnec.
On va dire que c'est vraiment ciblé sur les fruits, mais c'est vrai que ce qu'on souhaite mettre en place, c'est une expertise qui va permettre d'étudier n'importe quelle ressource naturelle végétale. C'est-à-dire que une fois que vous savez que bon, voilà, il y a des extractions qui sont possibles au niveau des molécules. Après, il y a des tests d'activité, donc pour les micro-organismes. On va faire aussi des tests de toxicité pour savoir si le produit est sain et sûr. Et en fait, pour n'importe quelle ressource, donc on pourra utiliser des plantes vraiment, par exemple de l'aloe vera, on pourra étudier le curcuma, on pourra avec cette méthodologie passer en revue différentes ressources naturelles végétales. Donc c'est vraiment, on a un modèle de fruits, mais ce modèle pourra être répliqué sur n'importe quel autre végétal, bien sûr adapté en fonction des propriétés des végétaux.
Bon après-midi Anne, à demain.
À demain, merci Benoît Ferrand pour ce journal La Première Caraïbe. C'est la fin du journal d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain 14h10, heure de Paris. Restez avec nous dans un peu plus d'une minute. Le retour de l'actualité sur la Radio du Monde.
RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android. RFI, la sélection du mois.
Jojoa et Lieutenant Nicholson. Toddy Effort et Sheba avec Roméo Elvis.
Je suis dans le club en mode. Le boss tourne la tête. Les femmes tournent la tête.
RFI. When I look at you.